Alors une question de Zarif. Considérant que l'Ancien Testament parle de l'ombre des choses à venir, est-ce qu'on pourrait dire qu'en Osée 11, verset 1, on devrait quand même pas comprendre que le prophète parle du vrai Fils de Dieu?
Serait très difficile à voir dans le texte même d'Osée, parce que quand on regarde le texte dans son contexte d'Osée, le contexte est super clair entourant Israël. Par contre, quand on arrive dans le Nouveau Testament, couvre là un sens nouveau, mais ça, c'est dans le contexte de Matthieu. Alors, voilà, est-ce que par la suite, on peut retourner derrière et puis dire, ah, voilà, ce texte nous parle du Fils de Dieu. Nous le savons uniquement parce que nous avons Matthieu maintenant. Mais à l'époque d'Osée, pour Israël, ils ne pouvaient pas entrevoir que ce texte-là serait messianique, que ce verset-là serait messianique. En tout cas, dans ma compréhension à moi, je ne crois pas qu'Israël pouvait voir ça. De toute façon, le contexte d'Osée 11 n'a pas pour but de présenter la venue éventuelle du Messie, mais a pour but de rappeler à quel point Dieu aimait Israël, il l'avait choisi pour être son peuple, sa femme. C'est ça l'objet de Osée. Alors voilà, moi personnellement, je pense qu'on n'a pas besoin de prendre quelque chose qui est nouveau dans la révélation progressive et retourner en arrière pour l'injecter dans le texte et lui donner une nouvelle saveur. Moi, je crois pas qu'on a besoin de faire ça pour que la parole de Dieu soit riche de sens, mais quelque part, c'est acceptable d'une certaine façon.
Une remarque aussi de Marc-Olivier qui mentionne plusieurs passages dans le Nouveau Testament concernant la fratrie du Seigneur Jésus. Donc il cite par exemple Galates 1, verset 19, où il est fait mention de Jacques, frère du Seigneur, vu par Paul. En Jean 7, verset 5, ses frères ne croyaient pas encore en lui. Et en Actes 1, verset 14, ses frères croyaient en lui.
Absolument.
Par contre, il y a une remarque qui va dans l'autre sens, mais comme elle n'est pas complète, je ne suis pas sûr de pouvoir la citer de manière correcte. De Wright ou Togo, je pense que les frères et sœurs dont parle le texte ne peuvent pas être de Marie, puisque c'est bien dit dans le verset 55, celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Mais je ne comprends pas très bien le sens de la question par rapport
Mais
à la phrase.
si je peux quand sur cette base-là, c'est drôle parce que personnellement, ça me donne un argument supplémentaire. Parce que justement, Jésus n'était pas le fils vraiment de Joseph. C'est pas du tout, sinon que d'un point de vue légal, bien sûr. Mais ça prouve quelque chose, c'est que le commentaire des gens qui disent ça voyait Joseph, Marie et Jésus et ses frères et sœurs comme une famille, puisqu'ils le présentent comme tel. C'est plutôt un argument en faveur.
Voilà, alors il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je te propose de continuer et puis on peut avoir un
OK.
petit temps de questions par la suite, à la fin.
OK, merci. Alors, donc, on est au point 10, et puis vous pouvez inscrire déjà à côté Tentation dans le désert. Ou simplement tentation sur la carte la vie de Christ, donc au point 10. Et donc là, on aura les 10 événements bien identifiés de cette période de préparation qui dure 30 ans. Et puis, je vais lire deux versets dans Luc 4, les versets 1 et 2, qui nous disent ceci. Or Jésus, plein de l'Esprit-Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert, étant tenté par le diable 40 jours. La question ici est probablement le désert de Juda ou le désert de la Judée, situé à peu près, disons, au nord-ouest de la mer Morte. Les évangiles mentionnent qu'il y a eu dans ce désert trois tentations, mais il y en a probablement eu davantage. Peut-être que ce sont les trois dernières attaques. Peut-être que ce sont les trois principales, peut-être. Quoi qu'il en soit, nous avons ces trois tentations qui sont mentionnées autant par Matthieu que par Luc, mais dans un ordre qui diffère un peu. Et plusieurs commentateurs pensent que Matthieu nous présente l'ordre chronologique des tentations. Une chose qui est certaine, ces tentations-là n'allaient pas être les dernières attaques du diable et de ces anges déchus contre le Seigneur Jésus-Christ. On voit que Luc 4, verset 13 nous dit jusqu'à une autre occasion, à une occasion favorable dans certains passages des évangiles, d'autres occasions où le diable s'est attaqué au Seigneur Jésus, au Fils de Dieu. Entre autres dans Marc 8, verset 33, vous lirez pour plus tard ces passages. Marc 8, 33, dans Jean chapitre 8, verset 40, Jean 8, 40, et dans Luc 22, au verset 3, 31, 42 et 53. Tous dans Luc 22, verset 3, 31, 42 et 53. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a été tenté de toutes les manières, mais précise, sans commettre de péché. C'est dans Hébreux, chapitre 4, verset 15. À la page suivante de vos notes, vous avez un petit tableau qui vous présente l'ordre des tentations selon Matthieu, selon l'évangile de Matthieu. Ensuite, nous avons donc chaque tentation qui est présentée ou introduite par « si », « si quelque chose », « si ceci ou cela », la tentation elle-même, le domaine de la tentation et puis la réponse du Seigneur. Lorsque nous parlons du domaine de la tentation, bien sûr, nous avons ce passage de la première épître de Jean au chapitre 2 et au verset 16. Et je vais lire ce passage qui est important ici, qui nous aide à présenter, disons, les tentations là correspondent réellement à l'un de ces trois domaines. Alors, 1 Jean 2, 16 nous dit ceci, « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. » Donc, c'est tout ce qu'il y a dans le monde. Et ça résume bien l'ensemble des tentations de Satan envers le Seigneur Jésus ou contre le Seigneur Jésus. Donc, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, c'est dans ce domaine-là que nous allons, dans cet ordre-là que nous allons examiner les choses. Alors, je vous indique quoi inscrire dans le tableau et puis par la suite, je vais faire quelques commentaires sur ce passage de Matthieu 4 que nous allons lire ensemble par la suite. Alors, pour compléter le tableau, nous avons donc l'ordre des tentations au sujet des pierres qui deviennent des pains, au sujet de la précipitation depuis le sommet du temple, c'est au point 2, et ensuite l'offre de tous les royaumes de la terre au point 3. Alors, nous avons donc, si tu es fils de Dieu dans les deux premières tentations, donc dans celle des pierres et celle du temple, inscrivez dans la colonne « si, fils de Dieu » aux deux endroits. Donc, « si tu es fils de Dieu » à chaque fois dans la tentation 1 et la tentation 2. Et la tentation 3, c'était plutôt « si tu m'adores » ou « si tu te prosternes devant moi ». Donc, « si tu m'adores », troisième tentation. Eh bien, c'est quoi les tentations elles-mêmes? Donc, vous pouvez écrire sous tentation, premièrement, pierre devenir pain, quelque chose du genre. Résumé pour que ce soit rapide. Donc, que ces pierres deviennent des pains. Et ça correspond à quel domaine? Tentation de convoitise plutôt de la chair. Donc, inscrivez chair sous le domaine. Alors, dans la première rangée, à côté de pierre, vous devriez avoir fils de Dieu, que ces pierres deviennent des pains ou quelque chose du genre, et le domaine de la chair. Et la réponse du Seigneur se trouve dans le Deutéronome, chapitre 8, verset 3. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Deutéronome 8, 3. Vous pourrez le lire et peut-être inscrire quelques mots-clés un petit peu plus tard. La deuxième tentation, le temple, si tu es fils de Dieu, c'était quoi la tentation? Jette-toi en bas. On verra ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça veut probablement dire. Jette-toi en bas. Et quel domaine cela touche-t-il? L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Nous allons voir de quelle façon tout à l'heure. Et puis, la réponse, Deutéronome 6, verset 16 et le psaume 91. Et troisième tentation, si tu m'adores, la tentation elle-même, je te donnerai tout. Et vous savez, le diable lui a montré, a mis devant ses yeux tous les royaumes du monde. C'est la convoitise des yeux. Regarde, regarde ce que je t'offre si tu m'adores. Jésus a répondu, Deutéronome 6, verset 13, « Tu adoreras et serviras lui seul, c'est-à-dire Yahvé, l'Éternel, ton Dieu. » Voilà la réponse du Seigneur. Donc, j'espère que le tableau est bien rempli. Si jamais il y a eu des coupures et vous avez manqué quoi que ce soit, un email à Claude Henry qui va me faire connaître vos besoins et puis je vous enverrai ce qui est nécessaire et ce que vous avez peut-être manqué. Donc, soyez pas dans le souci d'avoir manqué quoi que ce soit à cause des coupures. On va trouver moyen de régler ce problème. Alors maintenant, si nous allons dans Matthieu, nous allons lire le passage et j'aimerais le commenter quand même avec un peu plus de profondeur que ce que nous avons fait. Et je vais lire les versets 1 à 11. Alors Jésus fut amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. 40 jours et 40 nuits, après cela il eut faim. Et le tentateur, s'approchant de lui, dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais lui, répondant, dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable transporte dans la ville, dans la sainte ville, et le place sur le faîte du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable transporte encore sur une fort haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si, te prosternant, tu me rends hommage ou tu m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu seul. » Alors le diable laisse, et voici des anges s'approchèrent et le servirent. Darby traduit « proskuneo », le verbe grec par « rendre hommage », mais je crois que ça devrait être traduit par « adorer » dans la plupart des cas. C'est une autre discussion. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment une demande de rendre un culte au diable alors qu'il n'en est aucunement question. On rend un culte et on adore Dieu seul. Alors, j'aimerais commenter brièvement sur ces versets-là. Premièrement, les versets 1 et 2. Et nous lisons dans vos notes de cours. Le Saint-Esprit est bien présent dans cet épisode de la vie de notre Seigneur. Nous le voyons guider le Seigneur vers un temps d'épreuve. Et le fait que ce soit le Saint-Esprit qui a conduit le Seigneur là nous apprend que même les plans du diable sont encadrés dans les limites de la souveraineté de Dieu. C'était extraordinaire, n'est-ce pas? On voit là vraiment bien là, ce paradoxe quelque part, le Saint-Esprit qui amène Jésus dans les tentations du diable. Donc, c'est clair que Dieu est souverain. Et il est parfaitement au contrôle du processus. Et bref, cette simple vérité-là me fait du bien en tant qu'enfant de Dieu parce que je me dis que quelles que soient les attaques du diable ou du monde spirituel qu'on peut subir comme croyant, nous avons l'assurance que Dieu est au contrôle. Et rien ne se fait sans la volonté souveraine de Dieu. Rien. Voyez les attaques du diable contre Job dans l'Ancien Testament. Bien que Job, lui, ne sache absolument rien de ce conflit spirituel dans le ciel, nous avons le privilège d'avoir accès à cette révélation où Dieu permet au diable, mais est parfaitement au contrôle de tout le processus. Maintenant, dans cette période de tentation, tout semble clairement indiquer que le Seigneur était seul avec le diable. Alors, comment ces faits-là ont-ils pu être connus, sinon que par la bouche du Seigneur lui-même? C'est le Seigneur qui a certainement instruit ses disciples en leur racontant ce terrible affrontement, un affrontement qui a duré 40 jours et avec un assaut final peut-être en trois efforts. C'est difficile de voir la relation entre les 40 jours et les trois tentations spécifiques qui sont mentionnées là. Dans les versets 3 et 4, nous lisons, c'est à la suite dans vos notes de cours, nous lisons ceci. Lorsque Satan dit au Seigneur, si tu es fils de Dieu, c'est important que nous comprenions qu'il ne sème pas le doute quant à son origine, à l'origine du Seigneur Jésus ou quant à sa nature même. Il existe une règle de grammaire grecque que lorsque nous avons une conditionnelle, une phrase conditionnelle introduite par « si », mais avec le verbe principal au mode indicatif, alors il nous est permis de traduire par « puisque ». Pas dans tous les cas, mais très souvent c'est comme ça. C'est particulier, c'est en français, ça n'a aucun sens de dire ça ou presque. Mais en grec, c'est comme ça. C'est la forme grammaticale qui amène cette proposition-là qui est réelle. Donc, peut avoir le sens de « puisque ». C'est plutôt un défi par rapport à sa nature divine. « Puisque tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. » Voilà, c'est de le faire agir de manière indépendante du Père. Et vous avez ça dans vos notes aussi. C'est souvent ce que le diable veut nous faire faire, hein, nous faire agir sans consulter Dieu, sans le Père et sa décision dans nos vies. Dans vos notes de cours, nous lisons à la toute fin du paragraphe, c'est ce qu'il avait fait avec Adam et Ève dans le beau jardin d'Éden, n'est-ce pas? Faire agir Adam et Ève de manière indépendante de Dieu. Mais là où le diable a réussi dans le jardin d'Éden, très beau jardin, très beau contexte, eh bien là maintenant nous sommes dans un désert aride, eh bien il échoue parce qu'il est en face du Fils de Dieu. Vous savez, ce miracle-là d'une pierre transformée en pain a été interprété de toutes sortes de façons. On pense plutôt que le diable voulait simplement faire ressentir au Seigneur son besoin légitime de manger et la possibilité de satisfaire ce besoin-là légitime, mais sans la volonté de Dieu. Et la réponse du Seigneur montre bien que le Seigneur était soumis au Père et non à ses propres besoins, si légitimes qu'ils puissent avoir été. Il n'était pas soumis aux suggestions du diable non plus. Et le Seigneur Jésus, il va agir de façon totalement différente d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël dans le désert, quand Israël était aussi dans un temps d'épreuve dans le désert, eh bien, le peuple a souvent murmuré et péché à cause du besoin de manger, à cause de la faim et de la soif, mais pas le Seigneur Jésus. Et remarquable de la part du Seigneur. Aucun murmure de sa part, aucune désobéissance pour satisfaire un besoin légitime, se soumet pleinement à la volonté de Dieu à cet égard et lui-même prendra soin des autres plus tard dans son ministère public. De quelle manière Jésus a-t-il répondu à cette tentation? Les Écritures. C'est d'ailleurs ce qu'il fera toujours, répondre avec l'Écriture. Il utilise le verbe, bien sûr, « il est écrit ». Et ce verbe-là est présenté dans le grec de telle manière à dire que la parole de Dieu demeure, parce que « il est écrit », c'est un verbe qui a un aspect passé, pas pour nous en français, bien sûr, mais « il est écrit » dans le sens « il est écrit depuis longtemps et c'est encore écrit et ça demeure écrit ». Et c'est pour nous indiquer que la parole de Dieu demeure et elle est toujours actuelle pour répondre aux tentations. Et la parole de Dieu est beaucoup plus que cela. C'est une nourriture dont l'homme a vraiment et réellement besoin pour vivre. Remarquez bien aussi que dans sa réponse, le Seigneur Jésus ne défend pas du tout son identité. Il ne dit pas « Je suis le Fils de Dieu ». Il n'a même pas à le faire. Il va plutôt démontrer son identité dans son obéissance parfaite au Père. Ça me fait penser qu'en tant que croyants aussi, nous n'avons pas besoin de crier dans les rues que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à témoigner de l'Évangile. Mais notre identité, elle doit être par notre attitude et notre témoignage. 5 à 7, le Seigneur Jésus est placé sur le rebord du temple de Jérusalem. Et généralement, on pense qu'il s'agit de la colonnade royale qui se trouvait sur le côté sud-est de la cour extérieure du temple. Il y avait à cet endroit-là un profond ravin de l'autre côté. Joseph Flavius, l'historien juif, nous dit que c'est un endroit qui était tellement élevé qu'il pouvait même causer des étourdissements, tellement c'était haut. Et il y a des commentateurs qui nous disent que c'est à cet endroit-là que Jacques, plus tard, sera précipité vers sa mort. C'est l'historien Eusèbe de Césarée qui nous dit cela dans l'histoire de l'Église. Mais dans vos notes de cours, nous lisons ceci. Selon une tradition des rabbins juifs, le Messie devait apparaître sur le toit du temple. À l'heure où notre Messie viendra, dit cette tradition, il se tiendra sur le toit du sanctuaire et proclamera à Israël que le temps de la rédemption s'est approché. C'est une citation du commentateur juif Alfred Edersheim, Jesus the Messiah. Je pense que ça a été traduit en français récemment, mais le titre m'échappe, mais c'est un ouvrage de Alfred Edersheim. Si vous connaissez le titre, faites-le parvenir aux autres par le chat peut-être et qui seraient intéressés à l'avoir. Et donc, Alfred Edersheim, se basant sur cette tradition juive de l'apparition du Messie sur l'endroit le plus élevé du temple, là où possiblement le diable a conduit le Seigneur Jésus, il nous décrit cette tentation dans les termes qui suivent, et c'est dans vos notes de cours, et je trouve ça très intéressant, même si on ne peut pas affirmer de façon définitive que c'est bien ce dont il s'agit. Alors, il nous dit ceci. Jésus se tient sur la tour de surveillance qui surplombe la cour intérieure, étant vêtu d'une tunique de lin. Le soleil se lève à l'horizon. Dans la cour, en bas, le sacrifice du matin vient d'être offert. Les portes massives du temple s'ouvrent lentement et les sacrificateurs soufflent dans leurs trompettes pour inviter le peuple à venir commencer une nouvelle journée devant leur Dieu. Maintenant, là c'est comme si c'était les paroles du diable, maintenant qu'ils puissent te voir descendre, porté par les anges au milieu du peuple, quel hommage et quelle adoration! Vous savez, c'est une très belle description du sens possible de cette tentation. Il y a beaucoup de commentateurs du passé qui ont pensé que le diable incitait Jésus au suicide. Jette-toi dans le vide, peu importe, tu ne mourras pas, parce que les anges vont arriver, vont intervenir et vont te porter dans les mains pour que rien ne t'arrive. C'est un peu bizarre comme tentation. C'est possible quand même, juste pour mettre à l'épreuve ce verset-là qui assure la protection du Messie. Mais je trouve la proposition d'Edersheim très intéressante. Une provocation à manifester sa messianité avant le temps. Ce serait ça le point de la tentation, plutôt qu'une incitation au suicide seulement pour provoquer, mettre au défi la promesse de Dieu de protéger Jésus coûte que coûte. Alors, c'est possible, mais je trouve la proposition d'Edersheim très intéressante. Alors, si la première tentation avait pour but d'amener Jésus à ne pas faire confiance à Dieu pour ses propres besoins légitimes, ici, le but serait d'amener Jésus à se révéler, mais avant le temps, en forçant Dieu, dit, c'est dans vos notes de cours, il est aussi écrit, et j'ai mis en gras le « aussi », parce que ça, c'est une très bonne règle d'interprétation des Écritures, tenir compte de ce que la Bible dit ailleurs, avant de conclure. On peut faire certaines propositions intéressantes, mais il faut s'en tenir au texte et toujours revenir au texte. Et d'ailleurs, le diable sortait de son contexte les promesses de Dieu dans les psaumes et dans les passages qu'il a cités, parce que quelque part, il veut le faire agir de manière indépendante. Et on sait très bien que le Messie n'allait pas agir de cette façon-là, n'allait pas provoquer Dieu. Alors voilà pourquoi Jésus répond en disant, il est aussi écrit, il faut voir ailleurs ce que la Bible dit et ne pas conclure de façon erronée. Les versets 8 à 10. Dans son récit, Matthieu précise que c'est sur une haute montagne que Jésus a été transporté par le diable. Il y a des commentateurs qui disent que c'est en pensée que Jésus a été transporté, d'autres que c'est physiquement, d'autres qu'il aurait eu une vision. Mais en réalité, peu importe la manière dont ça s'est produit, ce qui est clair, c'est que la gloire du monde lui a été offerte et il a dit non. Et nous lisons dans vos notes de cours, encore ici, non seulement Jésus n'allait pas rendre hommage au diable, mais dans son obéissance, il a rendu hommage à Dieu. C'est de lui seul, de son Père, que Jésus recevra gloire et puissance, comme on le voit dans le psaume 2, verset 8. Jésus le sait et il ne précipite rien. Et c'est à lui seul, à son Père, que l'honneur est dû. Et encore une fois, Jésus va vaincre en citant correctement les saintes Écritures. Cette tentation soulève quand même une question intéressante. Est-ce que le diable est vraiment le propriétaire de tous les royaumes de la terre? Certainement pas. N'oubliez pas que le diable est menteur. Il est le père du mensonge. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur, pas au diable, au Seigneur. C'est clair d'après plusieurs passages de l'Écriture, 1 Corinthiens 10, verset 26, le psaume 24, verset 1, et Deutéronome 10, verset 14. Donc, la terre est au Seigneur. Par contre, il ne fait aucun doute que Dieu, dans sa volonté permissive, si on peut l'appeler comme ça, laisse le diable au contrôle de certains royaumes de la terre. Il est certainement derrière plusieurs dirigeants de ce monde. Il est d'ailleurs appelé le prince de ce monde dans Jean chapitre 16, verset 11. Et ça fait bien longtemps que le diable fait de telles promesses aux grands de ce monde de leur donner la gloire. Et plusieurs, malheureusement, ont été séduits par cette offre de la gloire. Mais quelle fin tragique pour tous ceux qui croient les mensonges du diable. Et un commentateur a déjà dit, ou un prédicateur, je ne me souviens plus, mais qui avait dit, tous ceux qui acceptent les cadeaux pourris du diable auront une fin tragique. Ce sera les temps de feu. Ça fait réfléchir quand même quand on entend ou on lit de telles déclarations. Et au verset 11, eh bien, nous lisons dans vos notes de cours, « Satan est vaincu dans le désert, mais il reviendra à l'attaque à un moment précis. » Et ce sera, entre autres, à travers Pierre, plus tard, à travers Judas aussi, à Gethsémané et, bien sûr, sur la croix. Jésus le dit, il a vaincu le diable, et puis cette victoire est à la portée de tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. J'aimerais, avant de laisser quelques questions, s'il y en a, j'aimerais qu'on tire quelques leçons du récit de la tentation. Donc, quelques leçons du récit de la tentation, et vous allez compléter dans vos notes de cours ces trois leçons que nous pouvons tirer. Premièrement, ce récit de la tentation du Seigneur a certainement été raconté pour encourager les chrétiens. Donc, vous pouvez inscrire « encourager », raconter pour encourager les chrétiens lorsqu'ils font face à la tentation et à l'adversité, leur donner aussi l'exemple de comment reconnaître et vaincre les tactiques du malin. Et vous voyez que c'est à travers particulièrement la connaissance des saintes Écritures que nous avons la victoire. C'est l'épée, hein, que nous avons entre les mains l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, qui est une parole citée bien à propos, qui nous délivre et nous procure de grandes victoires. Ensuite, deuxième leçon à tirer du récit de la tentation, il faut bien noter que dans chaque tentation, le Seigneur a répliqué avec une citation des Saintes Écritures. Vous savez qu'il y a des gens qui disent que Jésus a vaincu le diable parce qu'il avait une connaissance supérieure des Écritures, supérieure à celle du diable, on entend. Mais Jésus a vaincu parce qu'il a été obéi, basé sur la connaissance que Jésus fait. C'est aussi une application dans sa propre vie de l'Écriture qui le rend vainqueur. Donc, c'est pas de seulement citer un texte, mais c'est de le vivre et de l'appliquer. C'est exactement ce que Jésus fait. Et troisième et dernière leçon que nous pouvons tirer de ce récit, eh bien, le choix des textes que Jésus a utilisés est très significatif. Ils proviennent tous du Deutéronome. Donc, vous pouvez inscrire ici Deutéronome et vous avez les références des trois réponses du Seigneur. Et ce livre-là, nous, pendant laquelle le peuple d'Israël était éprouvé dans le désert. Donc, nous avons dans la personne du Seigneur Jésus, évidemment, le modèle à suivre pour vaincre les tentations du diable. Et il nous donne aussi les mêmes outils accessibles pour nous, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et bien sûr, c'est par notre obéissance que nous allons certainement triompher, parce qu'il a déjà vaincu. Rappelez-vous hein, ces beaux passages de 1 Jean. « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Pourquoi? Parce que Christ l'avait vaincu pour eux auparavant. Et c'est une victoire qui est maintenant accessible, disponible pour nous aussi. Est-ce qu'il y a maintenant des questions? Moi, je voulais arriver au point 4 et couvrir même, parce que c'est très, très bref le point 4, le début du ministère public. Mais avant, j'aimerais laisser la place à des questions s'il y en a.
Alors, il n'y a pas de questions, mais des remarques. Alors, tout d'abord, une remarque pour le titre de ce livre de Alfred Edersheim, sauf erreur. Donc, en français, c'est « La vie et l'époque de Jésus le Messie ». C'est Eric qui a trouvé la référence. Par contre, on n'a pas trouvé où on peut se le procurer. À la FNAC ou chez Amazon, il existe en anglais, mais on n'a pas trouvé l'endroit où on peut l'acheter en français si quelqu'un est intéressé. Mais je pense qu'en faisant un tour sur ces sites de vente par correspondance, on doit peut-être trouver quelque chose. Donc, La vie et l'époque de Jésus le Messie. Et puis ensuite, il y a Olatéjou de Togo qui demande si tu peux juste revenir rapidement sur le tableau, parce qu'il n'a pas réussi à tout noter. Sur le tableau de la page 14, est-ce que tu peux juste redire les différents points pour remplir le tableau?
D'accord. Très rapidement. Alors, on inscrit « Fils de Dieu » dans la colonne « Si » dans les deux premières tentations, « Fils de Dieu » et la troisième, c'est « Si tu m'adores ». Les tentations elles-mêmes, les pierres qui deviennent des pains, ensuite « Jette-toi en bas » et puis « Je te donnerai tout ». Et puis, en fin de compte, si vous prenez l'Évangile selon Matthieu, ça va vous aider à remplir le tableau parce que c'est basé sur le récit. Et les trois domaines, c'est la chair, l'orgueil de la vie et juste.
Alors, je répète parce qu'il y a une coupure. Donc, la chair, l'orgueil de la vie et les yeux. Alors, ensuite, il y a une remarque de Clément. Je pense intéressant de souligner l'état dans lequel Jésus est après 40 jours de jeûne, degré de fatigue, de faiblesse, entre autres. Malgré tout cela, il tient bon face à la tentation.
Excellente remarque. Merci Clément.
Alors, il n'y a pas d'autres questions.
Vous me manquez tous tellement beaucoup. Là, vous n'avez même pas idée à quel point vous me manquez. C'est pas possible. Ça peut se régler cette histoire de COVID. OK.
Alors, comme il n'y a pas d'autres questions, tu peux peut-être terminer ce dernier paragraphe.
Oui. Alors, début du ministère public, le point 4 maintenant. Le Seigneur Jésus est baptisé, il a été éprouvé dans le désert, il a tenu bon, il est solide, il est prêt à commencer maintenant son ministère public. Et puisque il doit commencer son ministère public, bien, Jean-Baptiste, il doit maintenant s'effacer. Et il a très, très bien compris cela parce qu'à un moment donné, il y a quelques-uns de ses disciples qui vont venir trouver Jean-Baptiste et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, et voici, il baptise et tous vont à lui. » Et qu'est-ce que Jean-Baptiste va répondre? C'est remarquable. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, les versets 26 à 30, il va répondre « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Et donc, dans le contexte immédiat, c'était « Il est temps qu'il prenne place et c'est son ministère public qui va débuter. Et moi, maintenant, c'est terminé. J'étais le précurseur. Je dois m'effacer. Je dois disparaître. » Et puis, c'est ce qui va arriver dans des circonstances vraiment dramatiques, mais c'est exactement ce qui va arriver. C'est un beau verset que ce verset de Jean 3:30 qui peut être appliqué de tellement de façons différentes, en particulier avec l'importance que notre vieux moi disparaisse et que Jésus prenne de plus en plus de place. Mais dans le contexte où Jean-Baptiste dit cela, c'est vraiment dans le contexte historique du début du ministère public de Jésus. Il faut qu'il croisse, il faut que je diminue. C'est une façon de dire, il faut maintenant qu'il accomplisse son ministère public, la raison pour laquelle il est venu ici-bas, et puis moi, c'est terminé, je dois disparaître. C'est assez remarquable quand on tient compte du contexte de cette déclaration, tout en admettant qu'elle comporte des applications assez extraordinaires. Alors, ce fameux ministère public du Seigneur Jésus va se dérouler sur 3 années. Et je mets entre guillemets 3 parce que c'est pas tout à fait 3, c'est un peu plus que ça en réalité. Mais on peut voir et présenter ce ministère public en 3 périodes d'environ 1 année. Et la première année, on va lui donner un nom, ainsi que la deuxième et la troisième, qui vont résumer, ces noms-là vont résumer ce qu'ont été les 3 années du ministère public du Seigneur. Première année, donc vous allez inscrire à côté obscurité. La première année est une année d'obscurité. Et nous allons expliquer plus en détail pourquoi nous l'appelons ainsi dans ce cours, obscurité. La deuxième année, popularité. Opposition. Donc, l'année de l'opposition. Donc, on passe de l'obscurité, on s'en va vers la popularité, et puis pour terminer dans l'opposition. Et vous allez inscrire ces 3 mots-clés sur la carte « La vie de Christ ». Donc, en haut de la carte, dans la section « Ministère public », et vous voyez que c'est la partie principale de la carte, il y a eu la préparation, le ministère public, et puis il y aura le sacrifice à la fin. Eh bien, première année, vous réinscrivez ici sur la carte chacun des mots-clés. Première année, donc, c'est l'obscurité. Deuxième année, la popularité. Et troisième année, l'opposition. Donc, vous inscrivez ces 3 mots-clés aussi sur la carte. Et là, nous allons lentement, gentiment, comme vous dites, entrer dans le ministère public du Seigneur en débutant à la prochaine session avec les premiers événements. Donc, nous serons arrivés au point 5 à la page 17 de vos notes de cours. Je suis très satisfait parce que c'est exactement l'endroit où j'espérais me rendre. Et je vous inviterai, on a discuté, Claude, nous avons discuté ensemble sur la manière de passer à travers le cours pour s'assurer de tout couvrir dans les périodes que nous avons. Et ce que je pourrais vous encourager à faire, c'est il n'y a pas de devoir vraiment à faire, mais si vous pouvez prendre vos notes de cours et lire à l'avance tous les passages qui sont mentionnés dans vos notes de cours. Par exemple, à partir d'ici, au point 5, les premiers événements, lisez le texte de Luc 3, versets 1 et 2. Un peu plus bas, sur cette même page 17, vous avez Jean 1, 37 à 51. Lisez, méditez sur ces passages-là. Donc, vous aurez une bien meilleure préparation pour ce qui est à venir. Et puis, ça va nous permettre aussi, nous, de gagner du temps parce que il y a des textes qu'on n'ira pas forcément lire à travers le cours ensemble. Ça va nous permettre simplement de gagner du temps. Donc, par la suite, il y aura aussi dans l'évangile de Jean, vous pouvez lire le chapitre 4 qui nous parle de la Samaritaine, 3 aussi avec Nicodème, etc. Donc, vous pouvez prendre l'avance. Je ne sais pas exactement où on se rendra pour le prochain cours, la prochaine session, mais prenez-vous d'avance un peu pour lire quelques textes, puis ça devrait nous donner une meilleure préparation et nous permettre de traverser tout le matériel. Voilà, il reste 3 ou 4 minutes. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des commentaires de votre part.
Alors, Eric te demande si tu sais déjà jusqu'à quelle page tu penses aller la prochaine fois.
Que je l'ai dit, je n'étais pas certain, mais je vois le matériel, ça c'est bien.
Autrement, on peut faire ce que j'ai dit cet après-midi, c'est que je le mentionne dans le mail qui vous sera envoyé lorsque les enregistrements seront disponibles. Alors lisez, ouvrez ce mail,
oui.
Et puis vous aurez votre réponse. Vous aurez une semaine encore pour parcourir le cours de la prochaine session.
Assurément, vous pouvez vous rendre jusqu'à la fin de la page 26. Donc, on devrait s'arrêter au point 4, la prédication et enseignement du ministère du Seigneur en Judée. Mais jusqu'à la fin de la page 26 de vos notes de cours, si vous regardez l'ensemble des textes qui sont mentionnés là, ce serait super.
Alors, autrement, il y a une question tout à fait pratique de Wright au Togo. Est-ce à dire, en rapport avec ce que nous avons considéré ce soir, est-ce à dire que nous devons faire aussi 40 jours avant de jeûne avant de commencer notre ministère public?
Non, c'était pas en fait ici. C'est une épreuve qui le concernait lui et spécifiquement lui pour en préparation de son ministère public. Mais d'une façon ou d'une autre, on doit savoir que le Seigneur nous forme avant d'entrer dans le ministère actif. Il va toujours nous former à travers différentes choses et entre autres les épreuves. Donc, elles font partie de la formation du croyant. Je pense que c'est ce qu'on devrait retirer, mais sans en faire une norme. Surtout pas en lien avec le temps, la durée, ou en lien avec le type de mise à l'épreuve. Vous savez, ce sont des mises à l'épreuve qui étaient spécifiquement, qui avaient pour but de mettre à l'épreuve le Seigneur Jésus dans sa messianité, voilà. Donc, c'est pas normatif, non. Quand je dis c'est pas normatif, est-ce que c'est clair, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas la norme.
Alors, je propose qu'on en reste là.
Bonsoir à tous.
Alors voilà, je vous souhaite une bonne soirée à chacun.